débute les matins avec le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Des difficultés en lecture et en calcul mental. Le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, livre ce matin, dans un entretien à 20 minutes, les premiers résultats des évaluations controversées menées dans les classes de CP et de CE1 à la rentrée. Des évaluations critiquées par les syndicats d'enseignants en français et en mathématiques. Tous les détails dans un instant.
Réunion de crise à Berlin ce matin. Les alliés de la grande coalition d'Angela Merkel doivent tirer les premières leçons après leur échec aux élections régionales en Bavière, échec qui fragilise encore un peu plus l'instable coalition de la chancelière allemande, camouflet historique pour les conservateurs de la CSU au pouvoir depuis les années 50.
À la une encore, les budgets de la zone euro présentés à partir d'aujourd'hui à la Commission à Bruxelles. Focus dans ce journal sur le budget de la France et de l'Italie.
Et la question du jour, Catherine, dans une dizaine de minutes, sera-t-il bientôt possible de se passer des hommes pour se reproduire? On posera la question à Olivier Sandra, biologiste.
Près d'un quart des élèves de CP ont du mal à reconnaître les lettres et le son qu'elles produisent. En CE1, un élève sur deux a des difficultés en calcul mental. Ce sont les premiers résultats des évaluations nationales passées le mois dernier par tous les élèves de CP et de CE1 en France. Résultats dévoilés ce matin par le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, dans le journal 20 minutes. Bonjour Hakim Kasmi.
Bonjour Catherine Dutu.
Ces résultats pas très glorieux et ces évaluations même sont contestées ce matin par les syndicats et les professeurs.
Et oui, sans surprise, les tests ne sont pas bons. 23% des élèves de CP ont du mal à reconnaître les lettres et les sons qu'elles produisent, mais aussi les nombres dictés. Quant au CE1, les tests montrent que 30% des élèves lisent moins de 30 mots par minute, alors que l'objectif national est de 50 mots par minute. Un élève sur deux a des difficultés en calcul mental et 47% d'entre eux ont du souci pour résoudre les problèmes. Des résultats contestés par les syndicats, SNUPP en tête, qui les jugent trop stressants, mais aussi qui arrivent trop tôt au début de l'année, notamment pour les CP, où on sait, hein, Catherine, l'apprentissage de la lecture varie beaucoup en fonction des élèves, mais surtout de leur milieu socio-culturel, auquel il faut ajouter des questions et surtout des mots très compliqués, tendez bien l'oreille, glande pinéale ou encore mélatonine étaient dans les tests. Pour y remédier, Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation qui persiste et signe sur les évaluations et les sciences cognitives va mettre en place un kit pour les enseignants qui sera sur Eduscol, le site dédié aux enseignants, ce qui ne leur retirera pas, promet-il, leur liberté pédagogique.
Jean-Michel Blanquer, on l'entendait avec vous, Hakim, contesté pour ses évaluations en CPC1. Le ministre cristallise aussi les critiques avec son projet de loi pour une école de la confiance. Ce projet est présenté ce matin au Conseil de l'Éducation. Le ministre compte notamment sur l'instruction obligatoire des 3 ans pour améliorer le niveau des élèves.
Oui, le ministre qui avait juré pourtant en arrivant en rue de Grenelle qu'il n'y aurait pas de loi Blanquer a manifestement changé d'avis. Dans son texte, il prévoit dès la prochaine rentrée, celle de 2019, la scolarité obligatoire pour les enfants dès l'âge de 3 ans et non plus dès 6 ans aujourd'hui. En revanche, elle restera bien obligatoire jusqu'à 16 ans. Ainsi qu'une contribution financière des collectivités publiques aux écoles privées, ce qui n'était pas le cas actuellement. Il prévoit aussi le remplacement du CNESCO, le conseil d'évaluation du système scolaire, par un conseil d'évaluation de l'école. Ce que dénoncent les syndicats, qui estiment ainsi que le ministre veut une instance à sa main, puisque c'est lui qui choisira notamment 4 de ses membres qui devront mener les travaux, ainsi qu'un membre qui sera issu de l'Assemblée nationale et du Sénat. Enfin, Jean-Michel Blanquer veut également réformer la formation initiale et continue avec la suppression des ESPE, les écoles supérieures du professorat, qui laisseront place désormais aux instituts nationaux du professorat. Il n'y a pas une grande différence, vous l'entendez, Catherine, et dont les directeurs seront directement nommés par le ministère de l'Éducation et le ministère de l'Enseignement supérieur, ce qui montre bien que Jean-Michel Blanquer veut prendre la main pour mettre en place sa politique et sa doctrine, une doctrine bien connue, puisque ses idées existaient déjà lorsqu'il était au cabinet de Xavier Darcos, ancien ministre de l'Éducation.
Pendant le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Merci Hakim Kasmi. Direction l'Allemagne à présent, où le parti qui était abonné aux majorités absolues va devoir apprendre à partager le pouvoir. La CSU a essuyé un camouflet historique hier aux élections régionales en Bavière, lande parmi les plus riches d'Allemagne. Les conservateurs de l'Union chrétienne sociale alliés au gouvernement d'Angela Merkel arrivent certes en tête du scrutin avec près de 37% des voix, mais c'est 10 points de moins que lors des précédentes élections en 2013, quand les Verts, eux, doublent aujourd'hui leur score et que l'AFD, parti d'extrême droite, entre lui au Parlement régional. La CSU bavaroise va devoir trouver des alliés pour gouverner et ce test électoral régional prouve que les électeurs rejettent aujourd'hui les partis politiques traditionnels aux manettes de la grande coalition en Allemagne. Ludovic Piétenu est l'envoyé spécial de France Culture à Munich, en Bavière.
Le discours droitier de la CSU, sanctionné des dirigeants mal aimés, le parti abonné aux majorités absolues va devoir apprendre à partager le pouvoir. Son candidat, Markus Söder.
Bien sûr, ce n'est pas un jour facile pour la CSU. Nous n'avons pas obtenu de bons résultats. Mais une chose est certaine, la CSU reste non seulement le parti le plus puissant, mais en plus nous allons diriger le prochain gouvernement.
Face à lui dans l'opposition, c'est une première des élus de l'AFD. Plus de 10% des voix, le parti d'extrême droite entre au Parlement. Avec 2 points de moins tout de même que le score réalisé ici en Bavière il y a un an, lors du scrutin national législatif, leur ascension a sans doute été un peu freinée par l'existence d'un parti local bavarois, les Freie Wähler, les électeurs libres. Et Alexander Gauland, l'un des dirigeants de l'AFD.
Bien sûr, nous avons subi la concurrence de ces Freie Wähler. Parce que comme nous, c'est un parti qui est contre l'immigration de masse et contre l'euro.
Numériquement, la perte électorale de la CSU se décompose ainsi en 3 parts quasi égales. 170 000 électeurs sont partis chez les Freie Wähler. 180 000 autres ont choisi de voter à droite toute pour l'AFD. Et autant, 180 000 plus modérés et centristes se sont reportés sur les Verts, qui doublent leur score, progressent de 9 points. Claudia Roth est vice-présidente des Verts au Bundestag à Berlin.
On est très content. C'est une élection historique, vraiment. Ça, c'est incroyable. La Bavière d'aujourd'hui n'est plus la Bavière d'hier parce qu'il y a tellement des personnes qui ont exprimé la volonté d'avoir un changement politique.
Les partis traditionnels sont rejetés. Ce sont eux qui forment la grande coalition à Berlin. Angela Merkel peut faire les comptes parmi ses alliés. Conservateurs de la CSU et sociodémocrates du SPD ont perdu ensemble en Bavière 21 points en l'espace de 5 ans entre 2 scrutins. Dans 2 semaines, un autre test électoral est prévu dans le Land de Hesse. La CDU de la chancelière qui est en lice et tous les sondages annoncent déjà un revers.
Ludovic Piétenu à Munich pour France Culture. Une situation indécise à présent au Luxembourg. Après des législatives hier, le parti social chrétien dirigé pendant près de 20 ans par Jean-Claude Juncker, actuel président de la Commission européenne, est arrivé en tête du scrutin hier, mais sans parvenir à déloger la coalition tripartite du Premier ministre Xavier Bettel, aux affaires lui depuis 5 ans. En clair, la coalition de centre-gauche peut rester au pouvoir, mais le centre-droit est aussi en mesure d'y parvenir. Au Luxembourg, encore une réunion aujourd'hui des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne. Le Britannique Jeremy Hunt estime ce matin qu'un accord sur le Brexit est essentiel pour préserver la sécurité en Europe contre de nouvelles menaces mondiales, terrorisme, cyberattaque ou encore migration clandestine, estime Londres. Déclaration donc ce matin à l'orée d'une semaine cruciale pour le Brexit, au menu du Conseil européen de mercredi et de jeudi, au cours duquel la première ministre britannique Theresa May présentera sa proposition d'accord à ses partenaires européens. Hier, d'intenses négociations à Bruxelles n'ont pas réussi à faire avancer les discussions sur le départ du Royaume-Uni de l'Union européenne. Les négociations butent encore et toujours sur le sort de la frontière irlandaise après le Brexit.
7h08 sur France Culture, la suite des matins avec le journal de Catherine Dutu. Retour en France avec la bataille du budget qui commence vraiment à partir d'aujourd'hui à l'Assemblée nationale.
Les députés examinent le volet recettes du projet de loi de finances pour 2019. À qui profite-t-il vraiment, Hélène Filly ? L'exécutif a-t-il tenu la sacro-sainte maxime du « en même temps », c'est-à-dire autant pour les ménages que pour les entreprises ?
Eh bien, pas vraiment. Avec la bascule du CICE en baisse de charges pérennes, c'est 20 milliards d'euros pour les entreprises cette année. Et même en additionnant les efforts qui leur sont demandés, comme la suppression du taux réduit de TICPE pour certains usagers du gazole, on reste à un total de 18 milliards 800 millions d'euros. Bien loin des 6 milliards de pouvoir d'achat promis aux ménages et tant vantés ces derniers jours par le gouvernement. D'autant plus qu'il oublie de prendre en compte le quasi-gel des prestations sociales, 3 milliards et demi en moins dans le portefeuille, la baisse des APL, 900 millions en moins. Au total, selon les calculs de l'Institut des politiques publiques, basé sur les chiffres de Bercy, le gain pour les ménages n'est que de 1 milliard 200 millions d'euros cette année. et avec de grandes inégalités, car en cumulant les réformes 2018-2019, si 60% des ménages y gagnent, les plus modestes, 20% des Français, vont perdre entre 0,5 et 1% de revenus disponibles, alors que les plus riches, 1% des foyers, verront leurs revenus bondir de 6% grâce notamment à la suppression de l'ISF.
Le budget italien 2019 à présent présenté aujourd'hui à la Commission de Bruxelles, comme pour tous les pays de la zone euro, le premier budget de la coalition populiste au pouvoir à Rome inquiète, on le sait, l'Europe et les marchés financiers, Mathilde Imberti.
La coalition au pouvoir défend un budget qui relancera l'Italie. Le commissaire européen, Pierre Moscovici, au contraire dénonce un projet qui n'est pas bon pour le peuple car trop déficitaire. Selon les dernières versions disponibles, 27 milliards d'euros de dépenses ne sont pas couvertes. Elles correspondent essentiellement à trois mesures, le revenu de citoyenneté versé aux Italiens les plus modestes, la baisse des impôts et le retour en arrière sur la réforme des retraites. Étant donné la chute de la bourse et la tension autour des taux d'emprunt, le gouvernement a tout de même consenti à modifier son tout premier brouillon. Le déficit à 2,4% en 2019 baisserait graduellement les deux années suivantes. Ce lundi, finalement, au-delà de la propagande politique et des petites phrases assassines, c'est un projet définitif de budget qui doit être envoyé à Bruxelles, sachant que l'Italie affiche la croissance la plus basse de la zone euro, tout juste 1%, et le triste record de la dette la plus considérable après la Grèce. Avec ce budget 2019, la partie est risquée pour le gouvernement italien, elle l'est aussi pour Bruxelles qui, en jugeant trop sévèrement Rome, risque de faire le jeu des eurosceptiques de la péninsule.
Et la colère monte par ailleurs en Italie après que le ministre de l'Intérieur Matteo Salvini, leader de l'extrême droite, a ordonné de transférer dans des centres d'hébergement près de 200 migrants qui étaient jusque-là accueillis dans le village de Riace en Calabre, village présenté comme un modèle d'intégration, modèle menacé. Nous vous en parlions lundi dernier, c'était le reportage de la rédaction de 7h24 à réécouter aujourd'hui sur franceculture.fr. 22 personnes dont des enfants ont été tuées hier en Turquie lorsqu'un véhicule transportant des migrants a quitté la route pour s'écraser dans le lit d'une rivière plusieurs mètres en contrebas. Le temps de ce lundi 15 octobre, agité et pluvieux dans le sud-ouest, alerte rouge dans l'Aude pour pluies violentes, des pluies qui, on vient de l'apprendre, ont fait un mort et disparu dans l'Aude. C'est ce qu'indique ce matin le préfet de l'Aude à BFM TV. Vigilance orange par ailleurs dans 5 autres départements du sud-ouest. Dans le reste du pays, alternance de nuages et d'éclaircies au meilleur de la journée. Il fera entre 16 et 20 degrés sur la moitié ouest du pays, comptez de 21 à 26 degrés à l'est, Guillaume Erner.
Merci beaucoup, Catherine Dutu.